Hey, yo, this is the narcissist, the Euphrates, nomadic massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to the CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
Hello and welcome to Viewpoints. Boris Chassaigne here with you for the next 30 minutes. On today's show, we will, of course, as many others recently did, turn to the sky. Some of us witnessed on April 8th the best of what astronomy can bring. Derek Brillard met up with people in Sherbrooke's Jacques Cartier Park, where the sun and the moon drew big crowds. From Sherbrooke to Montreal to catch a glimpse of the last days of a popular children's bookstore, La Petite Librairie Drawn and Quarterly closes its doors after 6 years.
I remember feeling so excited, this busy joy, because at the time, my kids were little. I was rereading kids' classics and discovering new titles, and also nurturing dreams about becoming a children's book author myself. And then 6 years ago, La Petite Drawn and Quarterly opened its doors to the community, and my kids loved it. I loved it.
And to Ontario, where the Pollinator Roadside Projects advocates for blooming roadsides and to restore pollinators' habitats.
So our goal is to promote the planting of roadsides with pollinator-friendly native plants to beautify the roadsides and restore habitat for pollinators and wildlife. We would like to see this become the usual or default way of planting roadsides in the future.
Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Follow us on X at CanadaLJI. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Welcome to this new episode of Viewpoints, and thanks for sharing your time and ears with us. First to the province of Quebec, where thousands gathered at Jacques Cartier Park in the eastern townships to witness the latest and evanescent total solar eclipse, eagerly anticipating the celestial marvel. The event, which began early Monday morning, culminated in 3 minutes and 23 seconds of total darkness at 3:27 p.m. Some enthusiasts camped overnight in their vans to secure their favorite spot. Journalist Derek Bullard works out of Sherbrooke, Quebec. He went down to the popular gathering spot to talk to solar eclipse enthusiasts.
From early hours, anticipation filled the air as attendees awaited the 3 minutes and 23 seconds of darkness that descended precisely at 3:27 p.m. But what is even more astonishing is the dedication of some enthusiasts who camped out overnight in their camper vans, ensuring that they had prime positions to witness the solar eclipse firsthand.
I'm from Stoneham. I'm here.
Okay. Can you describe the setup that you have here?
We have a big camping van, so we came here just to see the eclipse. And we came here to camp for the night and then be ready in the morning to settle here and wait for the eclipse.
Yes, great. So was there any particular reason why you chose to come to Sherbrooke and Jacques Cartier Park?
Yeah, of course, because it's the place where it's the longest, the eclipse lasts the longest, and also, I knew this place before. I came here to work last summer, so I knew a bit the place.
As I walked amongst the crowd, I quickly realized that we had enthusiasts from all corners, including Tyler McBride, who traveled quite some ways to witness the solar eclipse. Let's hear a snippet of Tyler's journey and find out how he ended up in Sherbrooke.
Where are you from?
Maryland, Southern Maryland.
Southern Maryland. Okay, so you made the trip all the way here to Sherbrooke.
Yeah, it's about 10 hours.
Did you get here this morning? Or
I got here Saturday night, yep. I was initially in Montreal, though. Drove down here from Montreal.
Was that your original plan, to go to Montreal and view the eclipse? Or?
Yeah, so initially, like, starting, like, Friday, me and my brother's here, too, we were going anywhere we could. Initially, we were going to go to Ohio. Then we were thinking about going to San Antonio. Okay. At one point, we were going to go to Little Rock, Arkansas. But every time we looked it up, the weather was bad. Okay. So initially, we were going to go to Burlington, Vermont. And we just went to Montreal because we couldn't find any hotels in Vermont. But then Vermont winds up getting bad weather. So we wound up finding this little spot in Canada, in Quebec. And it was like, hey, let's go here. So really, we decided to come here like yesterday afternoon.
Really? Okay, so it was a last minute thing.
Last minute, and it turned out pretty well.
Now, for Tyler to make this trip and witness this event under ideal circumstances was all part of his hobby.
Is it a hobby for you?
Or? Yeah, it's a hobby. I'm an amateur astrophotographer. Take pictures of the moon and the sun. I got a solar filter on my telescope here. Getting a couple good shots so far.
So can you describe a little bit of what you're using?
Yeah. So I got a reflector telescope. It's a StarSense Explorer, 130 millimeters, about 5 inches in diameter. Got a Sony A6700 on there with an eyepiece attachment. Using a 2x Barlow lens for the on the telescope, kind of helps with focusing, get things crisp in the camera. But that's really all it is.
Those present at the Jacques Cartier Park no doubt spotted many with telescopes and impressive setups. Our enthusiast, Tyler, mentioned spotting one particularly impressive arrangement. So on his advice, we decided to approach and ask a couple of questions.
I'm Bibiane, and this is Larry.
And where are you from?
We're from Port Elgin, Ontario. That's on Lake Huron. We were supposed to go to Niagara Falls.
Okay, yes.
But that didn't look so good, so we headed this way.
What brought you to Sherbrooke, anything in particular? Or?
Well, we were here for the eclipse, and we were checking all the forecasts, these different programs that were checking cloud coverage, and it looked like around here would be clear, so that's why we came here.
Tell me a little bit about your equipment, what you're using.
Four cameras going here. Okay. We've got a little GoPro that we're just for the fun, to watch people's reactions.
Yeah.
He's got a brand new... I don't even know what to call it. A big camera with a big lens that he was going to take time lapses every so many minutes to see the whole progression.
Okay.
And then we're hoping that just as the moon is over the sun, that we'll be able to see the corona and the Bailey's beads and all that. And then he's got two other cameras just for other backups and for other... portions.
Okay, and you have a battery backup to run everything?
Oh, yeah. He's got a battery backup there and the board with all the cables going on it so we don't trip on them too much. And we've got a table set up here for all the equipment. And we were here quite early, around 9 o'clock this morning.
Okay, obviously, you're here for the eclipse, but that doesn't happen as often. So what do you normally take pictures of?
We just retired a few years ago, right at the start of the pandemic. And we like nature shots, birds. And we've been traveling to southern Ontario, Pelee Island, and Costa Rica and other countries down there.
As the eclipse reached its peak, the atmosphere was charged with wonder and amazement. I witnessed as the crowd gasped in unison as the moon crossed in front of the sun, casting a shadow over the landscape. It was a moment of unity where strangers became companions in shared astonishment, marveling at the beauty and grandeur of the universe. I'm Derek Bullard.
Hello, I'm Candace Vetter in Embrim, Ontario, and you're tuned into Viewpoints. Follow us on X at Frequency News. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Boris Chassin here with you. A few years ago, it was common for car windshields to be spattered with bugs after a drive in the country. According to Jennifer Leet of the Pollinator Road Signs Project, that's not happening so much anymore. So Jennifer decided to lead a community-driven project to help restore habitat corridors for pollinators by planting pollinator-friendly native plants along roadsides. Backed by a grant from the Region of Waterloo's Community Environment Fund in Ontario, with the support from volunteers and sponsors, the Pollinator Roadside Project seeks to increase biodiversity, support pollinator conservation, reduce maintenance costs, and control water runoff. The project also hopes to set a provincial and national precedent for prioritizing sustainability and roadside plantings. Journalist MP Holmes in Kitchener, Ontario, had a long chat with Mrs. Leet.
A group of volunteers are setting out this Saturday, April 13th, to restore habitats for pollinators and beautify Waterloo Region roadsides along the way. The Pollinator Roadside Program is a community-driven pilot project led by Waterloo Region Nature to create pollinator corridors alongside city roads. Jennifer Leet, who is the lead of the Pollinator Roadside Project, talked about what the project is and how it came to be.
We noticed that there are large areas of the roadside which are currently just mown several times a year, especially along the expressways and rural roads. There seems to be large expanses there. But this turf grass, which is just mowed, provides no habitat for butterflies or other pollinators. In my personal opinion, I also think it's not very attractive. So these roadsides could become important and significant areas for creating habitat for pollinators and other wildlife, and could constitute in potentially important pollinator corridors through the cities and across the province of Ontario. And this, they could be planted to allow diversification and increased habitat for wildlife. So our goal is to promote the planting of roadsides with pollinator-friendly native plants to beautify the roadsides and restore habitat for pollinators and wildlife in the region of Waterloo. We would like to see this become the usual or default way of planting roadsides in the future. But this year, we're starting with a small pilot demonstration planting in April in Kitchener.
The small pilot demonstration planting that Jennifer refers to will be at the east side of Fisher-Holman Road, south of Glasgow Street. Jennifer explains the criteria with which the group chose this site as the optimal location for this initial planting.
So we looked at a large number of different potential sites within the city area of Kitchener-Waterloo, and we developed certain criteria. So we were looking for areas that would be visible to the public, so where there'd be high foot traffic, or that would be near traffic lights or on a bus route, for example. Also, that there would be no construction in the next few years, so that everything would get dug up. Also, we looked at the presence of infrastructure, that we didn't want an area where there would be utilities underground that might need repair, and therefore, again, the pollinator plantings would get disturbed. We wanted an area that's of mid-sized and not where people would walk over it, and ideally a sunny location. So we looked at all these criteria, and the site along Fisher-Holman came up as being the optimal one.
Jennifer explains why it is important for the garden to be visible to the public.
Well, because part of this is we're hoping that this pilot project that we're going to do will get people on board, that people will start to realize the potential and start to see that these pollinator plants actually look attractive. And we're going to be having some signage there that would give that sort of information to the public as well. So that's part of the purpose of doing the pilot or demonstration project.
The project aims to compare three different planting methods to determine the most effective way to establish pollinator-friendly habitat.
Well, because it's a pilot project, we are comparing three different methods. The one method is where we're going to be covering that area with paper and then with sand and compost. So this is a tried and true method, which many people have used in their own gardens. So this might be counted as the ideal method, although it's not really scalable up the larger areas. The second method, we're going to be preparing with vinegar, that which will reduce the current turf grass, helps to kill it off. And this is closer to what is commonly used to prepare sites for habitat restoration. So what would perhaps be more likely to be used if this type of planting is scaled up? And then the third method, we're going to just plant within the current vegetation after doing some weed whacking. And that's the simplest method. And in all of these areas, we're going to be planting seeds and plugs and plants eventually. We expect that the method covering with paper, sand, and compost, and also the method preparing with vinegar will allow the plants to develop faster. But we do think that eventually, given time, the method planting directly into the existing vegetation will work, because these native plants will eventually outcompete the turf grass because they have much deeper roots and they grow taller too.
The project aims not only to promote biodiversity and create sustainable habitats, also to save costs.
So we're hoping that it would become typical that these areas would be naturalized with pollinator native plants instead of turf grass. That would save funds in the long run. So it may take a little bit longer to establish with these native plants, but eventually they require much less mowing. So mowing only over every 2 to 3 years instead of 2 or 3 times or maybe even 4 times per year. So that's a substantial saving in workers' time and also in gas. Also, something that I haven't mentioned is that these types of plantings also are better at retaining water. So it would prevent water runoff and help to control water in that way.
The project hopes to contribute to pollinator conservation and to address the decline in their populations due to habitat loss and pesticide use.
Pollinators and insects generally are declining worldwide, so this is another reason why it's important to plant these areas and restore this habitat. The one illustration of this that usually hits home is that if you think about driving out in the country a decade or two ago, you would come home and your windshield would be coated with dead insects. And if you think about it, this just doesn't happen nowadays. It's very few. And so there's been a really documented, and this is just an illustration, decline in the number of pollinators in insects generally. And the loss of pollinators is concerning for several reasons. So firstly, many of the crops that we eat, fruits, vegetables, and nuts, require pollination for the plants. So they estimate that about a third of our diet is plants that require pollination by pollinators. So it's pretty significant for that reason as well. So that's why habitat restoration is very important. And restoring these areas along the roadsides is one way that we can give back some habitat. We're hoping to attract all kinds of pollinators. Butterflies and bees are the ones that most people think of. But other important bulk pollinators are moths, beetles, and flies. They also play an important role in pollinating plants. But bees, both native ones and honeybees, are important. So we're really hoping to attract any or all of these. We're going to be planting pretty much native plants or near native plants. And the reason for that is that these plants are more nutritious than other imported or introduced plants. It's thought that these introduced plants are not giving the pollinators as good nutrition as the native plants. So milkweed is a really good example. There are certain insects, like certain bees and certain butterflies, that rely on very specific plants, which are pretty much always native plants. So the monarch butterfly requires milkweed. So it's not so much for the butterflies themselves, because the monarch butterflies can use the nectar from a variety of different plants. It's the caterpillars of the monarchs that require milkweed. They cannot eat anything else. So they're very specific in that way. They develop together to be dependent on each other in that way.
Pollinators impact wildlife by being part of the food chain. Jennifer talks about how the decrease in certain bird species is linked to the availability of food.
Pollinators impact wildlife in several different ways. So many birds, first of all, rely on insects and the caterpillars of insects as food, particularly when they're raising their young. So that's one important thing. They're also part of the food chain for other animals, such as snakes and frogs, toads, lizards, and mice. So these smaller animals then become eaten by larger animals. So they're key in the food chain for that insects. However, the advice of the Canadian Wildlife Federation, who we've been in touch with, is to avoid habitat restoration directly beside the road or in areas where traffic speed is high. So for this pilot planting, there's a sidewalk between the road and where we're planting, and also we're not going to be planting the first meter beside the sidewalk. That's going to remain to be mowed in the usual way. We would certainly like this to become the usual or default method of sowing roadsides. We're certainly hoping that people will see what we're doing in the region of Waterloo and that it will spread and become more common in other regions of Ontario and maybe even across the whole of Canada.
The group is looking for volunteers from April to June to help with the planting. You can join the Pollinator Roadsides Waterloo Region Facebook group or go to waterlooregionnature.ca/conservation for more information. I am MP Holmes. Thanks for listening.
Hi, I'm Ted Evans from Stella, Ontario, and you're tuned to Viewpoints. Follow us on X at Frequency News. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Next to Montreal, Quebec, where a much-appreciated children's bookstore closes its doors after 6 years of operations. La Petite Librairie, owned by Drawn and Quarterly, has begun to move their stock to the flagship D&Q after closing on Monday. Monday was the final day for the popular children's bookstore in the Mile End Multicultural District of Montreal. For the past 6 years, the Little Library has been in the storefront at 176 Bernard Street West, right across from the flagship bookstore of the popular comics publisher. Drawn and Quarterly management says that sales at the children's store simply never recovered after the COVID-19 pandemic. The premises will be transformed into an events-only space. The children's sections is being folded back into the main bookstore across the street. Jules Bugiel has that story for us.
Maybe 8 years ago, I remember hearing Peggy talk about maybe, possibly, this wild idea of creating a separate children's bookstore.
This is Mitali Banerjee-Ruths, a mother of three who's been a customer at Drawn and Quarterly's flagship store since moving to Montreal around 15 years ago. Over the years, she's developed a relationship with the store's owners, who one day came to her with the news. They were opening a children's bookstore right across the street.
I remember feeling so excited, this fizzy joy, because at the time, my kids were little, I was rereading kids' classics and discovering new titles, and also nurturing dreams about becoming a children's book author myself. And then 6 years ago, La Petite Drawn and Quarterly opened its doors to the community, and my kids loved it, I loved it.
But within a couple of years, the pandemic hit, and manager Kennedy Rook says sales never recovered.
We all love the La Petite very much, but it's been a real struggle over the past few years to keep it open with the declining sales. I think the pandemic was the catalyst. We definitely never really saw the sales pick up to the point they were before the pandemic. And of course, people do have less money to spend, less disposable income to spend on things like books. And I think that, of course, contributes to it too, especially in like the recent, you know, months and past year.
The news has hit longtime customers hard. Rani Cruz, a mother of three living in nearby Outremont, says that her kids have been going regularly since the store opened.
It's sort of their safe space, I think, that they've had since they were little. And because they got to know us really well, once in a while we get an email saying, hey, I think Talisa would really like this book. It's about dragons, or, you know, Solène, this book is just, you know, about learning how to read, and it's also about dragons. We were big on dragons. So they, you know, they would keep an eye on books that we would like, and then often during COVID, we would just order them via the phone, and then they would just bring them that day.
I almost wish there could have been some, like, save D&Q, like they didn't put out an announcement.
Speaking now is Ariel Aronson, a translator and mother of two. She says that even though many of La Petite's titles will still be available at the flagship store, it just won't be the same experience.
The overall experience of walking into a children's bookstore is, to me, like, really unparalleled. And I felt so lucky to be able to have that for so long. And I think, you know, maybe like possibly some of the rest of the neighborhood, I guess I took it for granted.
Aronson has another connection to the store through her work. She says that made it special as well.
They would stock my translations. And it felt like coming full circle. Like, I'm not saying that my translations were, you know, smash bang. They weren't bestsellers. They weren't, you know, they weren't going to make or break anybody. But it felt nice to be able to say, like, I'm a local client, but I'm also, like, a local artist.
It's the same story for Mitali Ruths. When she became a children's author, it was the folks at La Petite Drawn and Quarterly who hosted book launches and helped get the word out, even when in-person events weren't possible.
In 2021, still amidst the pandemic, when large events weren't possible, the owners and booksellers did something so beautiful. They made a large window display with my first picture book, Archie Celebrates Diwali. And it was, as a first-time author, to feel that local support, to feel famous in my neighborhood, meant the world to me. And by going to other events, other book events there at La Petite, again, I met many amazing writers, readers, and creative people connected through La Petite D&Q. And here in Montreal, we're quite lucky to have some incredible, talented, generous children's book writers and illustrators and story makers. And it's been my privilege to meet them all through the store.
If La Petite was a hub for local talent, that was felt by the kids who went there too. The store hosts a weekly drawing club, each one hosted by a local comic artist. Cruz says that the drawing club, as well as the pre-pandemic book club, were the kind of events that made La Petite different.
So my middle kid was very, very into that club. They would have a comic book illustrator, graphic art illustrator who would come, and he or she would sort of kind of be there for like, oh, we could do a project, or, you know, why don't you guys start drawing and, you know, I'll take a look and give you some tips kind of thing. I just don't think you get that anywhere.
Oftentimes it's a kid asking you, like, how would you draw an airplane? Or sometimes it's collaborative where a kid will be like, here's my page, can you draw a bowl of soup on it? And then I'll draw the person eating it. So yeah, it's just a really great way to engage with kids and to be there and to do art.
This is Gabrielle Drolet, a freelance writer and cartoonist who works with The New Yorker and the Globe and Mail. She's also a volunteer host of La Petite's Drawing Club.
A lot of the kids have been coming for a few years, and so they go to different schools. They're not from the same part of the Mile End or of Montreal, but they know each other through this drawing club. And also a lot of the kids are new and they're really young, right? It's a big variety of age and drawing experience and interest. I think it's really important. You know, when I was a kid, I spent a lot of time at my public library, and I really cherished having spaces that weren't directly connected to group or to school, rather, that were arts-based that I could hang out in. And I think any loss of that is a huge loss for the community.
Drolet says she hopes the club will continue, even if the space changes. The plan for the storefront on Bernard is to transform it into an events-only space for Drawn and Quarterly. It already was a space where they hosted book launches and other events, even for graphic novels and other adult works. That future may include children's events as well, but manager Kennedy Rook says the team is still figuring that out. But no matter what happens, they're thankful for the support La Petite has had over the years.
I'm so grateful to everyone in the community for their support. And yeah, I do think it's like a real gift to have been able to have the space, to have La Petite, even, you know, if it can't be forever. There's not a lot of children's bookstores in the world, and I think that's really special, and I'm glad we did have it for the years that we did.
I'm Jules Bouchel. Thanks for listening.
And this concludes this episode of Viewpoints. Many thanks to our journalists, MP Holmes, Jules Bugiel, and Derek Bullard in Quebec and Ontario, and to our national coordinators, Victoria Fenner and Maureen McEwen. Viewpoints is brought to you by the Community Radio Fund of Canada. I'm Boris Chassagne, your host and producer. Thanks for being with us. Stay tuned to what follows, and until next week, ciao.
Tune to Viewpoints, local news nationwide. Kristen Carter. My debut contemporary pop album, Full Bloom, is now yours to discover. Full Bloom is a living garden of 12 songs that celebrates the beauty and the seasonal nature of life. You can find Full Bloom wherever you listen to music. Visit thekristencarter.com or follow at Kristen Carter Music for more. Funded by Factor and Canada's private radio broadcasters.
L'électronique expérimentale rencontre une rave indie pop rock moderne des années 80. Adam Ma crée une musique évocatrice. Son nouvel album, Year of the Dog, explore des thèmes tels que les relations à long terme, l'attrait de la nostalgie et l'état actuel de l'industrie musicale. Avec des apparitions de Jordan Lawler, Royal et Ricky, écoutez le nouveau album d'Adam Ma, Year of the Dog, sur votre plateforme de streaming préférée dès aujourd'hui.
Production Nuit d'Afrique invites you to the gala of the 17th edition of Slie d'Or de la Musique du Monde. See you on Tuesday, April 25th at La Tulipe from 8 p.m. onwards. Come out and support your favorite artists to help them win the Slie d'Or d'Argent and des Bronzes. Le Slie d'Or de la Musique du Monde is a celebration that brings the cultures of the world together. For more information, visit sliedor.com.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. On vous parle aujourd'hui du prochain sommet des femmes qui sera au programme du Congrès mondial acadien cet été, un événement d'envergure internationale où l'on va débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Daniel Aucoin a rencontré Janine Riant, responsable du sommet des femmes.
Quand on réunit les femmes ensemble, il y a une force qui se crée à l'intérieur, une synergie entre femmes. On peut célébrer, on peut rire, on peut partager des histoires, on peut créer, on peut devenir créatif. C'est quelque chose qui est très important.
La pièce de théâtre « M'appelle Mohamed Ali » a récemment pris l'affiche du Théâtre de la Vieille 17 à Ottawa, une pièce qui plonge au cœur du racisme et de la ségrégation. Marie-Hélène viendra nous en parler.
C'était assez troublant parce que c'est vrai que, en tant que personne noire, c'est du théâtre à tous les jours. C'est du théâtre à tous les jours.
Et on remonte sur la côte nord au Québec pour explorer la manière dont les communautés anglophones et francophones se côtoient. Dans la MRC du Golfe du Saint-Laurent, près de 500 francophones se mêlent à 2800 anglophones.
Mon rêve, c'était qu'on soit la région la plus bilingue au monde, du moins au Québec et au Canada. Donc, c'est un rêve qu'on a. Puis le 20 février, on a pu se rendre compte que notre rêve est partagé.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X at Canada LJI.
Merci d'être encore avec nous cette semaine. On revient d'une relâche de 2 semaines au cours desquelles nous vous avons présenté des reprises de Point de vue. Eh bien, nous reprenons le cours de notre programmation régulière et on lance l'émission dans les Maritimes où nous attend Daniel Aucoin qui se prépare tout doucement à couvrir au mois d'août le prochain Congrès mondial acadien en Nouvelle-Écosse, lequel, j'en suis certain, va le tenir passablement occupé. Ce congrès qui sera en outre l'hôte du Sommet des femmes acadiennes et dont on vient de dévoiler la programmation, l'événement La force est dans nos racines, de l'épuisement à l'épanouissement, se veut rassembleur. La responsable du Sommet des femmes, Janine Riant, précise que les femmes portent plusieurs chapeaux au sein de leurs familles et communautés et elle les invite à venir se ressourcer, à partager leurs histoires dans une atmosphère conviviale et se rafraîchir dans l'air salin certainement du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Le Sommet des femmes est un événement d'envergure internationale où l'on peut débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Daniel Aucoin l'a rencontré.
Depuis 1994, le Sommet des femmes figure comme une partie intégrale du Congrès mondial acadien, portant comme thématique « La force est dans nos racines, de l'épuisement à l'épanouissement ». Ce volet important aura lieu dans le cadre du Congrès mondial acadien 2024 à divers lieux au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse du 13 au 15 août. Janine Riant, responsable du Sommet des femmes 2024, nous parle de l'importance de l'activité.
Le Sommet des femmes, c'est une activité très importante. Et je pense que quand on réunit les femmes ensemble, il y a une force qui se crée à l'intérieur, une synergie entre femmes. parce qu'il y a des femmes, on sait, qui ont besoin de plus de support, puis il y a des femmes qui sont capables de soutenir les d'autres femmes. Donc, quand on se réunit ensemble, dans des salles, dans des conférences, pour des rassemblements, on peut se soutenir entre femmes, on peut célébrer, on peut rire, on peut partager des histoires, on peut créer, on peut devenir créative. Puis c'est quelque chose qu'il faut jamais... Dans mes pensées, c'est quelque chose qui est très important et qu'il ne faudrait jamais arrêter.
Les organisateurs ont préparé une programmation inspirante de grande envergure qui aborde un large éventail des préoccupations présentes dans la vie quotidienne des femmes. Janine Riant souligne que le Sommet des femmes est une occasion de venir s'amuser et apprendre.
Ça fait que notre thème, c'est la force dans nos racines, de l'épuisement à l'épanouissement. Parce qu'on a entendu de plusieurs femmes que les femmes sont fatiguées. Puis l'idée, c'est d'amener du soutien, des outils, des façons de faire, afin de retrouver l'équilibre dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui portent beaucoup de chapeaux, que ce soit mère, que ce soit femme du ménage, que ce soit le travail, que ce soit dans des grosses compagnies, des petites compagnies, leurs propres entreprises. Et puis, nous autres, on a eu, selon nos focus, que les femmes s'intéressent à la santé. Puis, on a aussi eu le pouls de la santé financière. Donc, il va y avoir une journée qui va être dédiée à la santé financière, où est-ce qu'on va avoir les conférencières clés, table ronde et puis atelier. Puis, la deuxième journée va être le groupe ou le focus sur la santé qui compte, découvrir son plein potentiel.
Le Sommet des femmes 2024 permettra de célébrer le transfert intergénérationnel des connaissances traditionnelles et modernes, ainsi que le changement sociétal accompli par le leadership féminin, tout en inspirant la relève. Plus de détails sur le Sommet des femmes 2024, y compris les horaires précis de toutes les sessions, seront annoncés dans les mois à venir.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
On se tourne maintenant vers l'Ontario pour vous parler de la pièce « M'appelle Mohamed Ali » qui a récemment pris l'affiche du Théâtre de la Vieille 17 à Ottawa. Cette pièce, qui a tourné dans le monde entier, était présentée à la nouvelle scène Gilles Desjardins les 5 et 6 avril dernier. « M'appelle Mohamed Ali » raconte, vous vous en doutez, l'histoire du grand Mohamed Ali, icône de la boxe américaine, qui a aussi été reconnu pour son militantisme contre le racisme et la ségrégation raciale. Dans ses instants de vertige que nous propose la pièce, les luttes s'entremêlent, frappent alors les paroles incisives du champion mondial de la boxe, interprété par plusieurs acteurs différents. M'appelle Mohamed Ali a d'abord été monté au Théâtre de la Sentinelle à Montréal, grâce à une subvention qui lui a été octroyée par le TNM en 2022, Théâtre du Nouveau Monde, via son programme La Bourse du Nouveau Monde. Marie Hillès s'est assise dans les gradins pour ensuite prendre la direction des loges et nous a ramené ce qui suit.
Nous, on sait à quoi l'on reconnaît un frère. À sa dignité. Même dans la misère, reste digne, mon frère. Sois fier. Même dans la mort, garde ton honneur. Ne te complexe jamais devant tout ce qu'ils te montreront.
La pièce « M'appelle Mohamed Ali » a été présentée à Ottawa le 5 et 6 avril à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Sur les trois représentations, deux étaient complets. Geneviève Pinault, directrice artistique de La Veille 17.
Alors, ce spectacle-ci, c'était très important pour le Théâtre de La Veille 17 de le faire venir. Et je vous le dis, vous allez être bousculés, nous serons bousculés. On parle de racisme, on parle d'injustice, on parle de ségrégation, on parle de choses importantes. Malheureusement, toujours d'actualité, aujourd'hui même, 60 ans après le fameux Champion of the World de Mohamed Ali. Donc, malheureusement, mais c'est important de le faire.
Le synopsis, Étienne, un acteur africain, monte sur scène et s'apprête à incarner l'icône de la boxe américaine et militant contre la ségrégation raciale. Au total, 8 acteurs jouent à tour de rôle Étienne et Mohamed Ali. Lynn's dentiste est l'un des interprètes.
Normalement, c'est juste une seule personne qui fait le trajet de Mohamed Ali et de Étienne. Mais là, on a décidé de le séparer en un chœur de 8 comédiens, 9 avec la comédienne, parce qu'on trouvait ça intéressant d'avoir différentes opinions, parce qu'on n'a pas tous la même façon de dire les choses. Et donc, on voulait entendre cette différence-là.
Est-ce qu'il y a une partie qui a été particulièrement difficile à jouer?
Tout a pas mal été difficile à jouer. En fait, ce qui est beau, c'est que le processus créatif a été différent, pour moi, de tous les autres travaux que j'ai faits, parce que normalement, on arrive en répétition, on travaille sur le texte et tout. Mais là, on a eu un 2 semaines où est-ce que je dirais qu'on a échangé, qu'on a parlé de nos différents backgrounds, de nos différents, murs qu'on a frappés ou quoi que ce soit. Et donc, ça a été très nourrissant d'avoir ce retour de plusieurs personnes qui ont 25 à 30 ans d'expérience dans le métier et d'autres personnes qui viennent tout juste de sortir des écoles. Donc, ça a fait vraiment du bien de partir à travers ça. Mais malgré tout, on n'est pas tous d'accord sur tous les points. Il y a certaines choses qu'on voulait se rapprocher de nous, mais on a décidé de garder la partition qui était écrite. Il y a des mots, certains mots qu'on n'est pas d'accord d'utiliser, mais c'est ce qui est écrit. Ça veut dire quelque chose. Comment on veut le dire? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Donc, à chaque fois, c'est difficile. Pour d'autres raisons, mais à chaque fois, c'est difficile. Mais il faut affronter ça avec le public, essayer de tendre la main à la discussion, parce que ultimement, c'est ça qu'on veut faire. Et donc c'est difficile sur l'ensemble de la chose. Oui.
Comment est-ce que ça vous a changé, cette pièce, en personne ou en étant comédien, acteur?
Je pense que c'est une question d'avoir confiance en soi. Je pense que j'ai eu plus confiance en moi, dans la mesure où je ne suis pas tout seul à vivre ce genre d'expérience, ce genre de micro-agression, on pourrait dire, et que on peut pleinement aller creuser au fond de ce qu'on est pour aller le porter sur la scène. Et je pense que c'est ça que ça m'a porté et que j'espère pouvoir porter sur d'autres projets qui vont être tout à fait différents, mais que je vais pouvoir aller puiser là-dedans pour pouvoir me diriger dans la direction que je veux en tant qu'acteur, en tant que comédien noir, mais surtout en tant qu'acteur, parce que ultimement, là, c'est un spectacle qui parle de la condition noire, mais comment apporter ça sur d'autres projets? C'est ça, c'est plus ça mon truc, et j'ai fait de super belles connexions et des relations. Alors ça, pour moi, c'est très précieux.
Sarah Onyango a partagé ses sentiments après avoir vu la pièce.
C'est vraiment venu me chercher en tant que justement de personne afro-descendante, africaine, et en tant que militante justement dans leur communauté pour le respect des droits des personnes noires, les récits nationaux, les stéréotypes, les fantasmes qu'ont l'autre. Et ici, il parle surtout des Blancs, des personnes d'origine européenne. Tous les préjugés qu'ils ont envers les Noirs, ben, il a tout a été complètement déballé sur la scène. C'était assez troublant, parce que c'est vrai que en tant que personne noire, c'est du théâtre à tous les jours. C'est du théâtre à tous les jours. Quel masque on va porter aujourd'hui, maintenant, telle situation, parce qu'on est toujours en mode autopréservation, on est toujours en mode hyper-vigilance, tout le temps.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette pièce?
Moi, je suis une personne de taxes, je suis traductrice, donc les taxes, moi, vraiment les taxes, mais je suis une grande admiratrice de Mohamed Ali, et j'ai tellement vu de documentaires et de films à son sujet, j'ai reconnu certaines anecdotes, j'ai reconnu certains gestes, et Mohamed Ali, c'est quand même dans notre culture, dans notre univers d'héros, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué, moi. Et je me souviens du combat, justement, de Kinshasa. Et quand, à la fin, ils disent « Ah, allez, Boumaé, je suis africaine, je suis Swahili fan », j'ai reconnu.
C'était un reportage de Marie Hillès pour IJL à Ottawa.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chicoutimi, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
En fait un petit croche vers la côte nord du Québec et en particulier vers la MRC du golfe du Saint-Laurent, où notre journaliste posté à tête à la baleine s'est intéressé à la question du bilinguisme dans cette région, qu'on ne soupçonne souvent pas d'être majoritairement anglophone, relativement bilingue même. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, la MRC du golfe du Saint-Laurent compte 2840 anglophones pour 505 francophones. Dans les trois municipalités de la Basse-Côte-Nord, Saint-Augustin, Gros-Mécatina, Bonne-Espérance, plus de 97% de la population ont l'anglais comme première langue parlée. Le bilinguisme en Basse-Côte-Nord est une richesse qu'il faut valoriser, c'est du moins ce qu'estime le Centre de services scolaires du littoral, qui a d'ailleurs cet hiver amorcé avec ses partenaires communautaires une réflexion concernant le bilinguisme chez les jeunes et dans les populations de la Basse-Côte-Nord de l'île d'Anticosti. Notre journaliste Raphaël Hensley-Vincent en discute ici avec Marie Hamel, la directrice des services éducatifs du CSS du littoral. Madame Hamel qui revient sur la genèse et les visées de l'initiative, de même que sur la première table de concertation virtuelle qui s'est tenue en février dernier.
Le centre de services avait confié aux services éducatifs il y a quelques années de favoriser l'apprentissage de la langue française sur le territoire, dans toutes nos écoles. Alors, on s'était penché il y a 2 ans sur ce mandat-là pour rehausser la qualité de la langue française dans nos écoles. Puis, on s'est rapidement rendu compte que, en fait, la volonté des gens, c'est leur fierté et leur racine. C'est vraiment les deux langues. Alors, on a changé notre mandat, on s'est dit, nous, on veut améliorer les deux langues sur le territoire. On a été préoccupés lors de la lecture d'un rapport qui est sorti par la MRC du golfe du Saint-Laurent, puis qui dénotait en tout cas la grande différence qu'il y a sur le territoire entre les francophones et anglophones versus l'ensemble du Québec. Ça nous a parlé, puis on s'est dit, on est vraiment particulier au littoral. Partout au Québec, la population est 85% francophone, mais ici, c'est 85% anglophone. Fait qu'il y avait quelque chose là qui nous a allumé, qui nous a interpellé. Le rapport de la MRC du golfe Saint-Laurent mettait des statistiques là, sur l'employabilité des francophones versus les anglophones. Après ça, le taux de chômage des anglophones versus les francophones. Puis il y avait aussi toute la proportion des gens sur le territoire avec un niveau de scolarité plus élevé. C'est majoritairement des francophones. Alors ça nous a interpellé beaucoup parce qu'on s'est dit, c'est pas parce que les francophones nécessairement sont mieux, mais on fait nos analyses, on dit ben c'est probablement parce que pour accéder à ces emplois-là, ça prend les deux langues et ça élimine peut-être un grand nombre de bons candidats qui seraient peut-être majoritairement juste une langue anglophone.
Selon les plus récentes données du Statistique Canada, la MRC du golfe du Saint-Laurent compterait 2840 anglophones pour 505 francophones. La plupart des municipalités de la Basse-Côte-Nord sont majoritairement anglophones, souvent à plus de 97% de leur population. Blanc-Sablon compte pour sa part 78% de sa population qui est anglophone. La municipalité Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent compte la plus grande proportion de francophones. C'est 31,4% de la population qui est francophone.
On veut donner la meilleure des chances aux gens de la population. Rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas juste l'éducation parce que on a affaire avec une culture, on a le facteur des parents qui rentrent en ligne de compte, la langue parlée dans la communauté c'est anglophone, donc on est vraiment baigné dans un milieu anglophone. Donc, il n'y a pas des initiatives qui relèvent de plus grand que juste l'école, bien, ça va prendre un temps fou avant d'atteindre les objectifs qu'on veut se viser.
À terme, la visée de cette initiative, c'est d'améliorer la maîtrise des deux langues sur le territoire, explique la directrice des services éducatifs du littoral.
C'est notre rêve. On aimerait ça être le rêve de ma collègue qu'on partage tous maintenant, Anna Osborne, qui est la directrice pour les centres d'éducation des adultes sur le territoire. Elle a dit que son rêve, c'était qu'on soit la région la plus bilingue au monde, du moins au Québec et au Canada. Donc, c'est un rêve qu'on a. Puis, le 20 février, on a pu se rendre compte que notre rêve est partagé.
Donc, lors de cette première rencontre virtuelle qui rassemblait les partenaires communautaires, le Centre de services scolaires a souhaité sonder la population et ses partenaires sur leurs intérêts et leurs préoccupations reliées à la question du bilinguisme dans la région, mais surtout s'assurer de la légitimité de leur démarche. Il y a eu 22 personnes issues de différents organismes qui se sont mobilisées et qui ont partagé lors de cette journée leurs préoccupations, leurs expériences positives, mais aussi leur fierté de communiquer dans les deux langues. Il en ressort un consensus sur l'importance du bilinguisme pour les jeunes et les moins jeunes du territoire, affirmait Marie Hamel.
Ça a été vraiment une rencontre où les gens, on voit que c'est des fibres sensibles, la volonté est là, la fierté d'être bilingue, la fierté de vouloir aussi parler le français. On peut remarquer que c'est unanime autour de la table. Les gens veulent qu'on travaille dans ce sens-là. Ils veulent contribuer. Ils ont plein d'idées. Qu'est-ce qui va ressortir de cette table de concertation-là? Je pense qu'on va pouvoir en ressortir des belles initiatives. On va ajouter des joueurs, on va ajouter des personnes influentes sur le territoire qui pourraient nous aider à amener ce projet-là à bon port et de faire en sorte que l'apprentissage des langues, autant le français que l'anglais, soit être valorisé sur tout le territoire. Et je pense que si tout le monde est là et est très engagé, je crois qu'on pourrait faire une grande différence dans les années à venir et non dans les décennies à venir.
Ces échanges-là ont permis de conclure que la diversité linguistique est une richesse sur notre territoire et un privilège pour tous les élèves et les citoyens et citoyennes de la région. Et il a été mentionné que le bilinguisme permet notamment de faciliter une meilleure communication, d'accroître l'accès à la littérature, ainsi que d'élargir les horizons de l'éducation, de l'employabilité et du développement économique. Aussi, le Centre des services scolaires du littoral souhaite-t-il développer des actions concertées qui auront un impact sur plusieurs facettes de nos communautés, comme la scolarité, les perspectives d'emploi, l'utilisation des services publics et la fréquentation des commerces. Pour la directrice des services éducatifs du Centre des services scolaires, le bilinguisme est un atout qui dépasse le milieu éducatif et qui est vraiment la clé pour le développement économique et démographique de la région. Il faut aussi mentionner que cette réflexion s'inscrit dans une volonté d'accompagner les communautés de la Basse-Côte-Nord qui sont en majorité anglophones dans les changements que la loi 96, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, les changements que cette loi-là va apporter.
Le principal impact de la loi 96, c'est au niveau des communications. Les communications des instances gouvernementales qui mettent un accent vraiment plus pointu sur le français. Donc, ce qui s'en vient, est-ce que les gens vont avoir la difficulté à s'en servir? Si vous allez pour votre permis de conduire, par exemple, est-ce que vous allez toujours être en mesure de vous faire servir en anglais si vous êtes un anglophone? Donc, on peut voir venir que la langue dans laquelle les instances gouvernementales vont s'adresser à la population va être en français. Donc, on veut rendre toute population autonome, c'est le rôle du scolaire, donc on veut les rendre, on veut leur donner le maximum de chances de pouvoir bénéficier eux-mêmes des services dont ils ont besoin, pas avoir affaire à une tierce personne pour transiger pour son permis de conduire ou pour la santé ou dans certains domaines du gouvernement.
Le défi de taille, reconnaît la directrice des services éducatifs au Centre des services scolaires du littoral.
L'école, on ne se cachera pas que 7 de nos 10 écoles, c'est des écoles anglophones. Donc, l'apprentissage des langues se fait via un programme du ministère qui s'appelle Français langue seconde. Donc, le niveau de français en français langue seconde est un niveau de langue seconde. Donc, c'est pas un niveau qui va bien outiller nos élèves dans un contexte où la province est francophone. Il faut faire plus. Et compte tenu qu'on est dans un environnement complètement anglophone, c'est difficile pour nos jeunes et nos moins jeunes de pratiquer le français parce qu'ils n'ont pas d'occasion. Alors, comment on peut contrer ça? J'ai bon espoir qu'avec toute l'équipe là, qui s'est réunie le 20 février, j'ai bon espoir qu'on va trouver des belles initiatives, des activités, des événements, des initiatives qui vont faire en sorte que ça va être plaisant, ça va être intéressant. On va solliciter la participation des gens.
Il s'agit aussi d'un projet qui a un potentiel rassembleur s'il mise sur les échanges entre les communautés anglophones et francophones. On est petit et sur la Basse-Côte-Nord, on dit souvent qu'on est tissé serré, ajoute Marie-Amel. Ce projet-là ne peut que renforcer ces liens-là. Donc, je vous laisse écouter une dernière fois Marie-Amel sur les bienfaits du bilinguisme et de cette réflexion-là qui a été entamée par le Centre de services scolaires.
Notre volonté, c'est vraiment d'améliorer l'indépendance personnelle des gens. On veut qu'ils soient autonomes, autant dans une langue que dans l'autre. Tout l'accès à l'information, que ce soit l'information en anglais ou en français pour des programmes, parfois des programmes éducatifs qui sont disponibles en français seulement, mais qui ne seraient pas un élève qui veut aller dans un sport quelconque, mais qui se donne juste dans un collège francophone, par exemple. Donc, c'est de donner, c'est d'offrir toujours le maximum des chances à notre clientèle qu'on dessert, avoir des opportunités sociales. Parfois, on est mélangé avec des francophones ou des anglophones, puis quand on maîtrise pas à un niveau suffisant, bien, c'est des opportunités sociales, c'est des rencontres avec des amis. Des fois qu'on se sent moins, impliqué ou c'est moins intéressant pour les gens qui sont unilingues, francophones ou anglophones. C'est aussi de favoriser notre patrimoine familial, nos ancêtres, les ancêtres des gens de la Basse-Côte-Nord ont beaucoup d'ancêtres francophones. Et pour ces gens-là, le français demeure une belle valeur, une belle richesse. Donc ça aussi, ça c'est un bienfait du bilinguisme. Améliorer tout ce qui est employabilité. On veut que les gens de la Basse-Côte-Nord, s'ils veulent revenir sur la Basse-Côte-Nord, on veut qu'ils soient capables de revenir travailler avec un peu importe le diplôme qu'ils auront. Mais on est réaliste, c'est que de plus en plus dans les demandes d'emploi, c'est que les gens nous demandent d'être bilingues. Alors, on veut offrir le maximum d'employabilité aux gens de la Basse-Côte-Nord. Vivre au Québec, ça nous arrive avec des exigences au niveau du français et on veut donner la meilleure des chances à tout le monde. Puis, je pense que la fierté de maîtriser les deux langues, elle est unanime. Donc, c'est les bienfaits du bilinguisme, c'est vraiment la raison d'être de ce comité-là. Puis on espère qu'il va aller loin, qu'il va durer dans le temps et qu'il va sortir de belles initiatives des gens du milieu parce qu'ils sont très, très, très créatifs. Donc, on a bon espoir.
Merci à Raphaël Hensley-Vincent, basé à Tête-à-la-Baleine, pour cet entretien avec Marie-Amel, la directrice des services éducatifs du CSS du Littoral. En parlant de langue et de culture, notre correspondante à Plamondon, en Alberta, nous propose d'explorer l'impact qu'a eu la francophonie sur les langues autochtones dans l'Ouest canadien. Comment la francophonie albertaine a-t-elle affecté l'évolution des langues autochtones dans l'Ouest? C'est la question qu'explore Camille Danis, en compagnie de Rebecca Lazarenko, étudiante franco-métisse au baccalauréat en histoire, et Léo Piquette, ancienne figure politique et pionnier de la francophonie dans l'Ouest canadien. Ils reviennent tous deux sur le passé de la région de Plamondon en Alberta et sur la façon dont la colonisation française a influencé l'évolution des langues autochtones dans la région. Retrouvez Camille Danis et ses invités sur fréquenceinfo.ca, fréquenceinfo.ca. Aussi vous dire que la semaine prochaine, on fera une incursion dans la vie et la carrière cinématographique de l'autrice française Marguerite Duras, qui n'a pas seulement été autrice, mais aussi scénariste au cinéma, et qui plus est, surtout réalisatrice de 19 films qui prennent l'affiche à Toronto, en marge du TIFF, Toronto International Film Festival. Marine Ottogali sera avec nous la semaine prochaine pour en parler, ou encore, vous curieux comme pas une, comme pas un, vous vous rendrez directement sur fréquenceinfo.ca où c'est déjà là, pour tout savoir et écouter l'entretien que nous propose Marine avec la commissaire de la Cinémathèque du TIFF à Toronto.
Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
Voilà, c'est déjà tout pour nous. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci à nos journalistes Daniel Aucouin, Marie Hillès, Camille Danis, Marine Ottogali et Raphaël Hensley-Vincent. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. On espère que l'émission vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao!
radio locale partout au pays.